Alphonse Garot, c'est vraiment un personnage intemporel, on va dire. C'est vraiment le personnage moi, je la compare à Agrippine. C'est comme Agrippine et Néron, en fait. Elle a cherché à régner à travers un autre. Cet autre, c'est Jacques Chirac.
Podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Bouquins dans les poches. La conseillère, c'est le livre écrit par Olivier Faye, journaliste politique du Monde, en charge du suivi de l'Élysée. Dans cet ouvrage, il dévoile la vie de Marie-France Garot, l'une des femmes politiques les plus puissantes du XXe siècle. Un récit passionnant qui nous plonge dans le monde impénétrable et secret du gouvernement.
Bonjour Olivier Faye.
Bonjour.
Donc vous êtes journaliste au service politique du Monde, en charge du suivi de l'Élysée. Vous avez publié en mars 2021 le livre La conseillère aux éditions Fayard. Donc dans cet ouvrage, vous nous faites découvrir ou redécouvrir pour certains Marie-France Garot, une femme politique puissante au XXe siècle. Pourquoi avez-vous souhaité écrire sur cette personne politique ?
Justement parce qu'une femme politique puissante, que ce soit au XXe siècle ou aujourd'hui, c'est pas si courant. Et moi, le personnage de Marie-France Garot, j'ai été amené à la rencontrer un peu par hasard quand j'étais jeune journaliste. Et j'avais rencontré cette femme qui a beaucoup de caractère, très intelligente, qui m'a reçu dans son immense appartement sur les quais de Seine. À l'époque, elle avait plus de 80 ans et pour autant, elle avait encore beaucoup d'autorité, beaucoup de caractère. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur elle, sur son parcours, de comprendre pourquoi elle a réussi à s'imposer dans les années 70 comme la principale conseillère de Georges Pompidou, puis Jacques Chirac, au point, quelque part, d'avoir vraiment une influence considérable sur les affaires politiques du pays.
Donc, dans votre livre, on comprend que Marie-France Garot, c'est une femme mystérieuse. Comment vous avez réussi à la convaincre de parler de son histoire, de parler de son vécu ?
Alors, je ne sais pas si j'ai été excellent pour réussir à la convaincre de parler, parce que c'est quelqu'un qui considère qu'un conseiller, justement, un conseiller, ça reste dans l'ombre, et que ne doit pas ensuite apparaître que les hommes politiques qui endossent en leur nom les décisions. Néanmoins, elle a toujours accepté de me recevoir avec, on va dire, beaucoup de respect, c'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec elle. Mais elle, ce qui l'importait quand même, c'était de parler, on va dire, du temps long, de l'histoire, pas plus que de la coulisse. Alors que elle, vraiment, c'est vrai que sa caractéristique, c'est d'avoir été en coulisse pendant vraiment des années, on va dire une vingtaine d'années. Marie-France Garot, les cabinets ministériels, les couloirs de la République, ces lieux souvent un peu fantasmés, ça a vraiment été le lieu où elle a travaillé et où elle a vraiment réussi à tirer les ficelles, à faire beaucoup de carrière et à garder effectivement cette part de mystère à laquelle je pense elle tenait beaucoup, parce que le mystère, c'est quelque chose aussi qui vous donne du pouvoir, car ne sachant pas très bien ce que vous faites, les gens vous prêtent un pouvoir qui parfois est un peu fantasmé.
Qui c'était Marie-France Garot ? Quel genre de femme c'est, vous qui l'avez rencontrée ? Comment vous la décririez ?
Marie-France Garot, c'est vraiment un personnage intemporel, on va dire. C'est vraiment le personnage de... Moi, je la compare à Agrippine. C'est comme Agrippine et Néron, en fait. Elle a cherché à régner à travers un autre. Cet autre, c'est Jacques Chirac. Donc, c'est vraiment... elle a reproduit quelque part une part du matriarcat romain. Et c'est quelqu'un qui est très attaché aux permanences, justement, de l'histoire, de la politique. C'est une terrienne qui a grandi, on va dire, qui a grandi dans le Poitou, qui a grandi à Poitiers, qui est une vraie provinciale. Et pour elle, ça compte beaucoup dans sa formation politique. Et qui s'est assez vite attachée à la figure du général de Gaulle. Et qui donc, c'est engagé, on va dire, au service d'une certaine idée de la France, comme dirait le général de Gaulle, une idée très souverainiste, vraiment. Elle considère que l'Union européenne met à bas les fondements de l'État français, et aussi avec un vrai aspect conservateur. Marie-France Garot, c'est pas vraiment une disruptive, comme on pourrait dire aujourd'hui.
Dans les premières pages de votre livre, vous mentionnez que lors de vos recherches, de nombreux politiques n'ont pas souhaité vous répondre, en tout cas parler de leur relation avec Marie-France Garot. Pourquoi ?
Notamment, effectivement, c'est Valéry Giscard d'Estaing et Laure Balladur qui ne souhaitaient pas me parler. Et l'un et l'autre, pour la même raison, c'est qu'ils ne souhaitaient pas passer une heure ou une heure et demie de leur temps à ne dire que du mal d'une personne, car ils n'avaient que du mal à dire de Marie-France Garot m'ont fait comprendre leur conseiller. Et en fait, c'est que Marie-France Garraud, elle a laissé un souvenir assez terrible à beaucoup de gens, parce que c'est quelqu'un qui usait de la violence, des coups bas, qui a vraiment pratiqué la politique selon des codes qu'on pourrait considérer comme virilistes, et qui vraiment a laissé de très mauvais souvenirs à beaucoup de gens. Édouard Balladur, parce qu'elle le combattait quand ils étaient tous les deux conseillers ensemble à l'Élysée pour Georges Pompidou, et Valéry Giscard d'Estaing, parce que auprès de Jacques Chirac, Marie-France Garraud a vraiment passé son temps à faire la guerre à Giscard, considéré comme un libéral beaucoup trop européen, européiste, et donc dangereux pour ce qu'elle considérait être les intérêts nationaux.
Toujours au début de votre livre, vous expliquez que l'écriture de cet ouvrage a pris beaucoup de temps. Vous l'avez commencé, je crois, en 2013. Comment vous avez réalisé vos recherches et construit ce livre ?
Alors, il se base sur beaucoup d'entretiens avec des personnalités qui ont bien connu cette époque-là, donc à la fois d'anciens conseillers politiques, d'anciens ministres. Notamment, j'ai rencontré Albin Chalandon, qui à l'époque avait presque 100 ans, qui est malheureusement décédé l'année dernière, et qui a été ministre général de Gaulle, et ensuite qui a travaillé comme PDG de Elf, qui a bien connu le personnage de Marie-France Garraud, ainsi que son acolyte, Pierre Juillet, car quand on parle de l'un, il faut forcément parler de l'autre, c'est un couple politique assez indissociable. Et à part ça, j'ai passé beaucoup de temps aussi à lire des mémoires qui sont assez nombreux sur l'époque, et aussi à aller aux archives, notamment de l'Institut Georges Pompidou, où il conserve beaucoup d'archives orales, de personnalités en fait qui, au soir de leur carrière, passent 3, 4, 5 heures à parler, à raconter leur carrière. Et c'est vraiment un matériau très riche, et notamment, j'ai pu y découvrir qu'il y avait un policier qui travaillait avec Georges Pompidou à l'Élysée, qui était chargé de réceptionner tous les jours les écoutes téléphoniques. Et c'était vraiment des centaines de pages tous les jours qu'il transmettait ensuite, notamment à Marie-France Garraud. Et c'est ainsi qu'à l'époque, on va dire quelque part, il espionnait un peu le tout Paris politique, syndical, des affaires.
On découvre aussi dans votre livre l'envers du décor de la politique au XXe siècle. Comment a-t-elle réussi à faire sa place au pouvoir dans un milieu qui était quand même très masculin ?
Et qui reste encore aujourd'hui très masculin, effectivement. Effectivement, il y a quelque chose d'assez frappant dans son parcours, c'est qu'en fait, Marie-France Garraud, c'est la fille unique d'un homme qui a un peu élevé sa fille, on va dire, comme un garçon. C'est un homme, le père de Marie-France Garraud était assez âgé, il avait près de 50 ans quand il a eu sa fille. Et très vite, il l'a emmenée à la chasse, il lui a mis un fusil entre les mains, il l'a poussée à faire des études, elle est devenue avocate dans les années 50, ce qui, en plus, en province, était quand même pas très courant pour une femme. Et effectivement, c'est quelqu'un, Marie-France Garraud, qui a tout le temps eu de l'ambition, qui est très vite montée à Paris, qui a commencé assez vite à travailler dans les cabinets ministériels, et qui donc s'est fait sa place aussi en considérant qu'il fallait... Il fallait se comporter selon les codes du milieu, donc c'est-à-dire selon les codes des hommes. Et ce qui fait que très souvent, les hommes qui l'entouraient ne l'ont jamais essentialisée en tant que femme. Et la considéraient comme l'un des leurs, parce que parfois, elle était leur égale, voire leur supérieure, et que très souvent, elle les surpassait, on va dire, dans une part de violence ou d'autorité, parce que Marie-France Garraud, c'était vraiment un personnage très autoritaire.
Tout au début du livre, et peut-être la plus grosse partie du livre, on constate qu'elle reste toujours dans l'ombre d'un homme politique. Pourquoi elle a fait ce choix de rester dans l'ombre ?
Certainement, il y a peut-être, je pense que pour le coup, cette dimension de genre qui compte beaucoup, parce qu'à l'époque, des femmes sur le devant de la scène, il n'y en avait quasiment pas. La première à avoir vraiment marqué les esprits, c'est Simone Veil, qui d'ailleurs était une grande amie de Marie-France Garraud. Donc peut-être qu'il faut y voir ça aussi. C'est aussi que Marie-France Garraud, c'est quelqu'un qui... vivait aussi avec une forme de délectation, le fait de pouvoir tirer les ficelles. Le fait d'être dans les couloirs du pouvoir vous protège quelque part, que vous ne vous brûlez pas sous les feux, à la lumière des feux de la rampe. Et donc, ça l'a quelque part protégée. Et on a vu qu'à partir du moment où elle a roulé pour elle-même, à partir de l'élection présidentielle de 1981, elle a quand même décliné. Est-ce que en 81, à la présidentielle, elle fait seulement 1,3% des voix, puis pendant 20 ans, elle se présente à diverses élections et elle perd tout le temps. La seule fois où elle sera élue, ce sera en 1999, où elle sera élue députée européenne. Mais on a vu que dès qu'elle s'est détachée effectivement d'une figure d'homme politique pour lequel elle travaillait, bah, très vite, elle a été un peu reléguée, on va dire, en deuxième division.
Comment elle l'a vécu, cette sortie politique ?
Alors, en fait, ce qu'elle a très mal vécu, c'est la rupture avec Jacques Chirac. Parce que donc Jacques Chirac, elle la rencontre, jeune conseiller politique à Matignon, elle-même travaille à Matignon aussi auprès de Georges Pompidou, et très vite elle repère le talent de ce jeune homme qui est vraiment plein d'allant, très intelligent, très ambitieux, mais qui a peut-être un petit peu de mal à voir dans quelle direction il souhaite aller. Là où Marie-France Garraud, elle, c'est une vraie idéologue qui est très axée sur son idée de souveraineté nationale, et donc elle cherche à cornaquer Chirac, qui a à peu près le même âge qu'elle. Et donc, pendant une douzaine d'années, elle le dirige et elle le fait devenir Premier ministre, président du RPR, maire de Paris. Vraiment, à chaque fois, chacune de ces étapes, derrière, il y a Marie-France Garraud. Et en 79, il bute sur l'élection européenne, où cette fois, le RPR finit quatrième. Et il y a beaucoup de gens dans l'entourage de Chirac qui disent « C'est à cause de Marie-France Garraud et de Pierre Juillet que tu as perdu. Ils sont allés trop loin. Ils ont été... Trop omnipotent, on va dire, dans ton entourage. » Et donc Chirac s'est séparé d'elle. Et derrière, elle a eu une part effectivement de ressentiment suite à cette rupture, qui était une vraie rupture amicale, parce qu'ils étaient vraiment amis l'un et l'autre. Et ensuite, effectivement, pendant 20 ans, elle a cherché ensuite à retrouver quelqu'un avec qui elle pourrait avoir de l'affluence. Elle a cherché éventuellement à voir si Yves Montand, si Philippe Séguin, si Philippe de Villiers, ces différentes personnalités, pourraient pas à un moment ou à un autre l'aider à revenir sur le devant de la scène, mais malheureusement pour elle, ça n'est jamais arrivé.
Elle se sentait peut-être trahie par tous ces hommes politiques qu'elle avait aidés justement dans l'ombre.
Par Chirac surtout, parce que Chirac, vraiment, quelque part, elle l'a pris au berceau, et à l'époque, il n'était rien, il était simple conseiller à Matignon, puis elle en a fait quand même voilà, un ministre, un premier ministre, et un potentiel présidentiel. Donc c'était surtout pour lui qu'il y a eu une forme de déception. Après, pour les autres, Marie-France Garraud, c'est quelqu'un qui a très vite eu une bonne expérience de la patte humaine et qui avait assez peu de... C'est plutôt une misanthrope, donc elle avait assez peu d'espoir sur le genre humain.
Lors de vos premières recherches pour écrire ce livre, vous avez tenté de contacter Jacques Chirac, j'imagine. Comment ça s'est passé ?
J'avais contacté effectivement via sa fille Claude Chirac et on m'a fait comprendre que chez les Chirac, on ne souhaitait pas parler de Marie-France Garraud parce que parler de Marie-France Garraud, ça revient à parler d'une époque où Chirac était justement cette ligne-là très nationaliste, où ils lui ont fait tenir des discours qui étaient vraiment très à droite, rien à voir avec les discours qu'il pouvait tenir ensuite quand il a été élu président de la République en 1995. Et donc c'est un peu la face sombre en fait du parcours de Jacques Chirac, donc il n'avait pas forcément envie d'en parler. Et par ailleurs, Marie-France Garraud ensuite a passé son temps à assassiner symboliquement Jacques Chirac avec des phrases très cruelles, avec des bons mots vraiment qui sont restés dans la postérité. Notamment, elle a dit qu'elle pensait au début que Chirac était du marbre dont on fait les statues et qu'en fait il est de la faïence dont on fait les bidets. Et ce bon mot-là est resté, et ce qui fait que derrière, les Chirac ont conscience qu'il ne vaut mieux pas trop s'approcher à nouveau du personnage Garraud.
Est-ce que la politique, le monde politique que vous dépeignez dans votre livre, c'est un peu le même aujourd'hui, ou est-ce que ça a quand même évolué, notamment pour la place de la femme ?
Pour la place de la femme, c'est une évidence que les femmes ont réussi à se faire une place sur la scène politique, qui reste encore, à mon sens, trop faible, hein, notamment dans les conseillers. On voit auprès des conseillers d'Emmanuel Macron qu'il y a très peu de conseillères de poids. Il y en avait peut-être un petit peu plus avant auprès de François Hollande, sans doute, mais elle reste quand même toujours minoritaire. Fort heureusement, dans les gouvernements maintenant, à l'Assemblée, au Parlement, tout ça progresse. Mais après, ce qui a beaucoup changé, je trouve, c'est que dans ces années 60-70, on est quand même dans une période où c'est la fin du gaullisme, c'est le début du chiracisme. Il y a encore des personnages vraiment, des forts en gueule, d'anciens héros de la résistance, des personnages qui ont connu des heures très sombres de l'histoire. Et ça les marque au fer rouge quand même. Là où aujourd'hui, on est avec des personnalités politiques beaucoup plus interchangeables, dont les engagements peuvent être parfois plus sporadiques, Emmanuel Macron, par exemple, est apparu seulement à peine 10 ans, voire 5 ans publiquement sur la scène politique. Et peut-être que dans 5 ans, on ne parlera plus, en tout cas, il ne sera plus engagé sur la scène politique. Donc ça marque quand même un changement d'époque qui est en sens très, très fort.
C'était important pour vous de mettre en lumière justement l'histoire, la vie de Marie-France Garraud. C'est une personne politique que peu de gens connaissent, ou en tout cas ceux qui n'ont pas creusé dans l'histoire politique.
Avec moi, j'ai en fait une forme de nostalgie pour une période que je n'ai pas connue, parce que moi je suis né à la fin des années 80, et ce qui m'amusait, c'était de dépeindre aussi une époque. Moi je raconte dans mon livre vraiment, c'est le portrait un peu aussi des années 70, c'est les films de Claude Sautet, c'est une certaine couleur qui moi me plaît, me parle beaucoup, qui me rappelle l'époque de mes parents, mes grands-parents, qui m'ont surtout me raconté. Et aussi parce que c'est vrai que ce parcours de femme, en fait, moi j'ai écrit précédemment un livre sur Nathalie Kosciusko-Morizet à l'époque où elle ambitionnait d'être maire de Paris. Et j'aime bien l'idée aussi de mettre en avant des parcours de femmes parce que je considère qu'aujourd'hui, voilà, c'est des rôles modèles qu'il faut mettre en avant.
Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture de votre livre, c'est que vous écriviez que c'était la femme la plus puissante de la Ve République. Pourquoi?
Alors en fait, là, je suis en train d'emprunter une expression qui avait été utilisée par le magazine américain Newsweek à l'époque, c'était en 73. À l'époque, Marie-France Garraud donc, travaillait à l'Élysée auprès de Georges Pompidou, et il avait qualifié la femme la plus puissante de France. Ce qui était le cas, parce que vraiment, à l'époque, quand Marie-France Garraud parlait, on pensait qu'elle parlait vraiment au nom du président de la République, ce qui était quand même le cas. Et donc, elle a fait beaucoup de carrière à ce moment-là, et elle décidait vraiment de beaucoup de choses qui pouvaient se passer dans le pays. Et en fait, par la suite, on n'a pas retrouvé une femme avec une telle influence sur la scène politique. Il y a eu Simone Veil, mais son influence a été quelque part circonscrite à cette loi fondamentale qui est la loi sur l'IVG. Ensuite, il y a eu Édith Cresson qui était Premier ministre, mais ça a été très, très court, pendant 9-10 mois. Et à l'époque, on considérait que c'était un peu le pantin de François Mitterrand. Donc on n'a pas ensuite rencontré un personnage dont chacun convenait qu'elle avait une influence considérable. Donc c'est pour ça que bon, l'histoire de la Ve République n'est pas encore terminée et j'espère qu'on rencontrera une femme plus puissante que Marie-France Garraud, mais en tout cas, là, à l'instant T de 2021, à mon sens, on n'a pas encore connu de personnage plus important.
Merci Olivier Faye pour vos mots.
Merci à vous.
Donc je le rappelle, votre livre La Conseillère est paru aux éditions Fayard en mars 2021. C'est un livre passionnant qui dévoile les coulisses du monde politique à travers le portrait de Marie-France Garraud. Merci à vous, au
Au
revoir.
Podcast by Tendance Ouest.
Podcast by Tendance Ouest.